Bonjour, ici Chantal Hébert. Je suis heureuse de vous retrouver sur Globule Radio 90.5 FM, comme tous les jours, pour écouter la suite du livre « Les huit montagnes » de Paolo Cognetti. Aujourd'hui, je vous emmène en montagne. Résumé du chapitre 7. C'est le chapitre de la saison du retour et de la réconciliation pour Piero. Sa mère lui raconte sa jeunesse et celle de son père, avant leur mariage. L'épisode dramatique de ski de randonnée entre son frère Ael, qui s'appelait aussi Piero, meilleur ami de celui qui allait devenir son mari. Un après-midi, toute une plaque cède et va ensevelir Piero sans qu'il puisse faire quoi que ce soit. Le futur mari, lui, était orphelin et avait été recueilli par le grand-père de la famille grâce à l'entremise du curé qui emmenait les enfants en colonie de vacances. Le frère de sa mère, Piero, fit des études de médecine. L'orphelin, des études de chimie et tout de suite après, son service dans les chasseurs alpins. L'un était super entraîné en montagne et l'autre pas. Quand les secours arrivèrent, il était trop tard. Le grand-père ne supporta pas l'injustice du sort. L'orphelin et la sœur, du coup, se mirent ensemble, se mettant au banc de la famille. Chapitre 8. En août, le toit de la maison était fini. Il était fait de deux couches de planches séparées par une plaque de tôle et un isolant. À l'extérieur, c'était des bardeaux de mélèze mis à cheval les uns sur les autres et striés pour laisser l'eau s'évacuer. À l'intérieur, c'était des lames de sapin. Le mélèze devait protéger la maison de la pluie et le sapin la tenir au chaud. Nous avions décidé de ne pas percer le toit en faisant une lucarne. Même à midi, en plein été, cette absence rendait l'intérieur plutôt sombre. Les fenêtres tournées vers le nord ne recevaient pas de lumière directe. Mais en regardant au dehors, je vis la montagne devant moi resplendir de l'autre côté du lac, presque blanche. À cette heure-là, ses ressauts et ses pierrailles m'éblouissaient. La lumière qui entrait par les fenêtres venait de là, comme renvoyée par un miroir. Voilà comment fonctionnait une maison construite sur l'envers. Je sortis sur la terrasse pour observer cette montagne au soleil. Puis me tournai vers la nôtre, le Grenon, qui couvrait le ciel. L'envie m'était venue de grimper à son sommet et de voir à quoi ressemblait la Barma de là-haut. Ça faisait 2 mois que je l'avais au-dessus de la tête, mais l'idée ne m'avait pas encore traversé l'esprit. C'était peut-être mes jambes qui m'avaient dicté ce désir, et la chaleur de l'été. Mes jambes revigoraient, trépignaient d'impatience, et l'été m'attirait vers les hauteurs. Bruno descendit du toit, où il s'adonnait à un travail de patience. Il devait fixer un chaîneau de plomb entre la paroi rocheuse et le toit pour que l'eau, en s'écoulant, ne s'infiltre pas dans la maison les jours de pluie. Il fallait battre le plomb à coups de marteau, centimètre par centimètre, de manière à ce qu'il épouse chaque bosse et chaque creux de la paroi et y adhère parfaitement. Le métal était mou et, si on le travaillait avec soin, paraissait comme soudé à la roche, une veine opaque. Ce faisant, le toit et la paroi devenaient une seule et même surface. Je demandai à Bruno le sentier pour Grenon et il me montra une trace qui coupait le flanc de la montagne depuis le lac. Il disparaissait derrière un rideau d'aulne, dépassait une zone humide et réapparaissait plus loin entre des escarpements verts. Là-bas, dit-il, derrière ce qui ressemblait à une crête, se cachait en réalité une autre combe et un autre lac plus petit que le nôtre. Après, il ne restait plus que de la caillasse. Il n'y avait pas vraiment de sentier pour ce tronçon, peut-être quelques cairns ou quelques traces de chamois, mais il m'indiqua quand même un renfoncement sur la ligne de fête, où se détachait le blanc d'un reste de névé. « Si je gardais cette neige dans ma ligne de mire, dit-il, je ne pouvais pas me tromper. Une fois là, je serais sur la crête et n'aurais aucun mal à continuer jusqu'au sommet. » « J'irai bien y faire un tour, dis-je. Peut-être samedi ou dimanche s'il fait beau. Tu peux y aller aujourd'hui, dit Bruno. Je n'ai pas besoin de toi pour ce que je suis en train de faire. T'es sûr? Mais oui, c'est ton jour de congé. Vas-y, je te dis. » Le lac d'en haut différait en tout point d'une autre. Les derniers petits pins sambreaux et mélèzes, les derniers arbustes de saules et d'aulnes disparaissaient à mesure que j'avançais. Et passé la ligne de fête, l'air raréfié de la haute montagne soufflait déjà. Le lac n'était qu'une mare verdâtre, cerné de prés maigres et d'étendues de myrtilles. Une vingtaine de chèvres livrées à elles-mêmes se tenaient blotties près d'une ruine, et m'ignorèrent ou presque. Le sentier finissait là, au milieu des fausses pistes creusées par le passage répété des bêtes, là où les dernières brindilles cédaient la place aux grosses plaques de roches. J'avais le névé bien en vue et me rappelais les règles de mon père. Je tirai un trait entre moi et la neige et partis. Il me semblait entendre sa voix qui me disait « Tout droit, monte de ce côté ». Ça faisait des lustres que je n'avais pas marché au-dessus de la ligne des arbres. Je ne m'y étais jamais aventurée seule, mais j'avais dû aller à bonne école, puisque je me déplaçais sans peine sur la pierraille. Je voyais un cairn plus haut et marchais dans sa direction, passant d'une pierre à une autre, suivant un instinct qui me faisait préférer les grands blocs stables aux branlants. Je trouvais une qualité élastique à la pierre, qui, au lieu d'absorber les pas comme le font la terre ou l'herbe, renvoyait l'énergie dans les jambes, donnait au corps l'élan de continuer. Une fois posé le premier pied sur les rochers, en m'élançant vers le haut et en faisant basculer mon poids vers l'avant, l'autre n'eut de cesse d'aller plus loin, si bien que je me mis à courir et sauter, et à arrêter de contrôler le mouvement de mes jambes et à les laisser aller toute seule. Je sentais que je pouvais compter dessus et qu'elle ne se tromperait pas. Je repensais à mon père et à la joie que je lisais sur son visage quand nous dépassions les hauts pâturages, et entrions dans ce monde de pierre. C'était peut-être cette même joie que je sentais dans mon corps. J'arrivais au petit névé, le souffle coupé. Je m'arrêtais dans ma course pour toucher du bout des doigts cette neige d'août. Elle était glacée et granuleuse, si dure qu'il fallait y aller avec les ongles pour la détacher. J'en pris une poignée que je me passais sur le front et la nuque pour me rafraîchir. J'en suçais l'eau jusqu'à avoir des fourmis dans les lèvres, puis parcourus le dernier tronçon jusqu'à la crête. La vue devant moi s'ouvrit, alors sur l'autre versant du Grenon, son côté au soleil, sous mes pieds, après une bande rocheuse, un long pré dévalait doucement jusqu'à un groupe de baïtés et à un pâturage piqueté de vaches. J'avais l'impression tout d'un coup d'être redescendu 1000 mètres plus bas, ou d'avoir changé de saison. Devant moi, la lumière de l'été et les sonnailles du bétail, et derrière, quand je me retournais, un automne ombrageux, sombre, fait de roches humides et de plaques de neige. D'en haut, la perspective rendait les deux lacs jumeaux. Je cherchais la maison que Bruno et moi étions en train de construire, qui se fondit trop bien dans le paysage, et moi qui fusse incapable de la distinguer de la montagne dont elle était faite. Les cairns poursuivaient leur route quelques mètres sous la crête, le long d'une belle vire. Mais comme j'avais envie de grimper et n'avais pas de grands obstacles en vue, je décidai de rester sur le fil. Après toutes ces années, je reposais les mains sur la roche, choisis les appuis pour les pieds et me hissai. Même si l'ascension était des plus élémentaires, elle retint toute mon attention. Il me fallait de nouveau penser où poser la main et le pied, jouer de l'équilibre et non de la force, et me faire léger. Très vite, je perdis la notion du temps. Je ne voyais plus les montagnes autour de moi ni les deux mondes étrangers l'un à l'autre qui dévalaient en dessous de moi. Il n'existait plus que la roche que j'avais sous les yeux et mes mains et mes pieds. À un moment donné, il me fut impossible de monter. Et je sus alors seulement que j'étais au sommet. Et maintenant, pensais-je, il y avait un tas de cailloux sur la cime. Derrière ce monument rudimentaire, le Mont Rose et ses glaciers barraient le ciel. J'aurais peut-être dû prendre une bière pour fêter ça, mais je n'éprouvais ni jubilation ni délivrance. Je décidai de rester le temps d'une cigarette, de saluer la montagne de mon père et de redescendre. Je pouvais encore reconnaître chaque cime une à une. Je les observais en fumant d'est en ouest et me remémorais chacun de leurs noms. Je me demandais à quelle altitude je pouvais bien être, parce qu'il me semblait avoir franchi les 3000 sans rien sentir dans le ventre, et cherchais des yeux quelque inscription. C'est là que je vis, encastrée dans le tas de cailloux, une petite boîte en fer blanc. Je savais ce qu'il y avait dedans. Je l'ouvris et trouvait un cahier enveloppé dans une pochette plastique qui n'avait pas suffi à le protéger complètement de l'eau. Les pages rayées avaient la consistance du papier mouillé puis séché. Il y avait aussi 2-3 stylos, avec lesquels les rares marcheurs avaient laissé une pensée, ou parfois rien que leur nom et la date de leur passage. Le dernier remontait à plus d'une semaine. Je parcourus les pages et vis que sur cette montagne pelée, défaite et sans sentier qui faisait de l'ombre à ma maison, et que je sentais désormais aussi mienne, ne montaient guère plus d'une dizaine de personnes par an. Aussi pouvait-on remonter loin dans les années. Je lus nombre de noms et d'observations sans importance. Comme si, après s'être donné autant de peine, nul ne trouvait les mots pour décrire ce qu'il ressentait, à part des banalités poétiques ou spirituelles. Je tournais les pages du cahier à rebours, non sans un certain agacement pour l'humanité. Je ne savais pas ce que je cherchais, avant de l'avoir trouvé. 2 lignes d'août 1997. L'écriture était celle que je connaissais, l'esprit aussi. Il était écrit « Monte de Grana en 3h58, encore dans une forme splendide. » Giovanni Guasti. J'observais longuement les mots de mon père. L'encre qui avait bavé à cause de l'eau, la signature moins lisible que les 2 phrases qui la précédaient. C'était la signature d'un homme habitué à la faire souvent, plus vraiment un nom mais seulement un geste automatique. Dans le point d'exclamation, il y avait toute sa bonne humeur de la journée. Il était seul, c'était du moins ce que laissait penser le cahier. Je l'imaginais donc traverser la pierraille et déboucher sur la crête comme je l'avais fait. J'étais sûre qu'il avait gardé un œil sur sa montre, jusqu'à cet endroit précis où il s'était mis à courir. Il voulait à tout prix s'en tirer en moins de 4 heures. Il se sentait bien là-haut, au sommet, fier de ses jambes et content de revoir sa montagne lumineuse. Je fus tentée d'arracher la page pour la conserver, mais ce geste me fit l'effet d'un sacrilège, comme d'emporter un caillou du sommet. Je refermai le cahier soigneusement dans sa pochette, le remis dans la boîte et le laissai là. J'en trouvais d'autres, des messages de mon père dans les semaines qui suivirent. J'étudiais la carte des sentiers et partais à sa recherche sur les sommets les plus humbles, ceux oubliés de la basse vallée. Sur le Mont Rose, autour du 15 août, des processions de cordées visaient les glaciers et des alpinistes venus du monde entier déferlaient dans les refuges. Mais sur les sentiers que je prenais, je ne croisais jamais personne, mis à part quelques loups solitaires de l'âge de mon père, voire encore plus vieux. J'avais l'impression de le croiser lui quand je l'ai dépassé. Et il faut croire qu'il voyait en moi un fils parce qu'il me regardait arriver et se mettait sur le côté en disant « Place à la jeunesse !» Je vis que ces hommes avaient plaisir à ce que je m'arrête pour discuter un peu et je me mis à le faire. Parfois, nous en profitions pour manger un morceau ensemble. Tous revenaient sur les mêmes montagnes depuis 30, 40, 50 ans et comme moi préféraient celles que les alpinistes boudaient, les vallons abandonnés où rien ne semblait jamais changer. Un homme aux moustaches blanches me raconta que c'était une façon pour lui de repenser à sa vie. C'était comme si, en empruntant chaque année le même sentier, il se replongeait dans ses souvenirs et remontait le cours de sa mémoire. Il venait de la campagne, comme mon père, même si la sienne était celle des rizières entre Novare et Vercelli. De la maison où il était né, il voyait le Mont Rose au-dessus de la ligne des champs. Et, depuis tout petit, on lui expliquait que c'était là-haut que l'eau naissait, l'eau qu'il buvait, l'eau des fleuves, l'eau pour irriguer les rizières, toute l'eau qu'ils utilisaient venait de là. Et tant que le glacier resplendirait à l'horizon, il serait à l'abri des problèmes de sécheresse. Il m'était sympathique, ce monsieur. Il était veuf depuis quelques années et sa femme lui manquait beaucoup. Il avait des taches de soleil sur son crâne dégarni et une pipe qu'il entreprit de bourrer pendant que nous parlions. À un moment donné, il sortit une flasque de son sac, versa 2 gouttes de grappa sur un carré de sucre et me l'offrit. « Avec ça, t'iras à fond de train, » dit-il. Puis au bout d'un moment, il ajouta « Il n'y a rien de mieux que la montagne pour se souvenir. » Je commençais à le savoir moi aussi. Sur les sommets, je trouvais une croix bancale, parfois même moins. Je dérangeais des bouquetins qui bronchaient sans vraiment fuir. Les mâles me soufflaient au visage tout le déplaisir que leur causait ma présence. Les femelles et les petits, derrière, se mettaient à l'abri. Si j'avais de la chance, la boîte en fer blanc était cachée au pied de la croix, ou quelque part au milieu des cailloux. Je découvris la signature de mon père dans chacun de ses carnets. Il était souvent télégraphique, toujours à se vanter. Il m'arrivait de reculer 10 ans en arrière, rien que pour 3 mots. Fais aussi celui-ci, Giovanni Guasti. Un jour, il devait se sentir particulièrement en forme et s'être ému devant quelque chose pour écrire. Bouquetin, aigle, neige fraîche, comme une deuxième jeunesse. Un autre disait, brouillard épais jusqu'au sommet, vieille chanson, magnifique panorama intérieur. Je les connaissais toutes, ces chansons, et j'aurais bien aimé être avec lui pour chanter dans le brouillard. C'était le même ton mélancolique que je lus dans un autre message, laissé encore un an avant. De retour là-haut après toutes ces années, si seulement on pouvait s'y retrouver tous ensemble, sans voir plus personne, sans plus avoir à redescendre. Tous qui ? Me demandais-je. Et moi, où étais-je ce jour-là ? Qui sait s'il n'avait pas déjà senti son cœur faiblir ? Ou ce qui avait pu lui arriver pour qu'il écrive ces mots ? Sans plus avoir à redescendre. C'était ce sentiment qui l'avait fait rêver d'une maison, à l'endroit le plus haut, le plus hostile et le plus reculé, où il pourrait vivre coupé du monde. Moi, je copiais les dates et les phrases sur un carnet, avant de remettre le cahier là où je l'avais trouvé. Jamais je ne rajoutais une ligne de ma main. Cet enregistrement est réalisé à l'intention de tous nos anciens en EHPAD ou à l'hôpital et tous les soignants qui les accompagnent. Merci à eux. C'était Chantal Hébert sur Globule Radio 90.5 FM. Lecture des 8 montagnes de Paolo Cognetti. À la réalisation, Kirstine Mackenzie, Jean-Claude Aragon. Et cet enregistrement a été possible grâce à l'agence Jean de Cham à Chamonix.